que ça arrive.
Stéphane De Vries, est-ce qu'il va un peu vite en besogne parce qu'il y a quand même des étapes dans le processus d'adhésion? Il y a des pays qui sont également candidats depuis longtemps.
En fait, cher Michel, il est le représentant des gouvernements. Et ce qui me frappe, en fait, c'est qu'il y a quelques mois, Ursula von der Leyen a dit la même chose. Ouais. Elle était aussi très enthousiaste, mais elle représente la Commission, donc elle a un rôle politique. Lui, il est vraiment là pour les pays. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au sein des gouvernements nationaux.
Et Florence Aubenas, vous en revenez d'Ukraine? Vous êtes allé à de nombreuses reprises ces derniers mois. Ils vous en parlent, de l'Europe, les Ukrainiens que vous croisez, justement, comment ils regardent l'Union européenne? L'idée d'entrer un jour dans l'Union européenne, c'est quelque chose qui...
C'est le moteur. Ouais. C'est-à-dire, c'est rejoindre l'Europe, c'est devenu le symbole de quitter la Russie, en fait, de couper ce lien, de mettre une vraie frontière, de faire ça. Et je pense que l'Occident n'a pas d'option, c'est-à-dire qu'il faut maintenant gagner cette guerre. Je pense que l'Europe est allée suffisamment loin pour ne pas arrêter de livrer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je pense qu'à chaque fois, on a dit « Non, mais ça, on ne va pas livrer, et finalement, on livre. Ça, on ne va pas faire, et finalement, on le fait. Ouais. » Et je pense
les lignes rouges sont fluctuantes depuis le début de la guerre.
Oui, et ça n'était pas vraiment des lignes rouges. Ouais. Et je pense qu'il y a eu vraiment une bascule, c'est-à-dire que quand on se souvient de ce que disaient les chancelleries il y a un an, en fin février, en mars, c'était « Oh là là, ouais, bon, les Ukrainiens, très courageux, très courageux. » Ils se battent, bon, ça va être plié en deux mois, les malheureux, bon, c'est dommage, sortez les mouchoirs. Et en fait, il y a eu, entre-temps, quand même cette bascule à Boutcha et dans tous ces villages qui mènent à Kiev, où les chars russes ont avancé et finalement ont reculé assez vite. Ouais. Et ce recul, c'était les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout ça. Et ça nous a sauté au visage. C'est-à-dire, cette guerre, ce n'est pas simplement des chars qui essayent de rentrer à Kiev. Et donc ça, là, il faut quand même se souvenir que la première chose que les Européens et les Américains ont envoyé en Ukraine, c'est des procureurs, des TPI, c'est des petites cabines pour voir l'ADN.
Pour enquêter.
Exactement. Et donc je pense que la guerre a muté à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on l'a vu autrement.
Et la victoire pour les Ukrainiens que vous voyez, c'est forcément la reconquête de l'intégrité de l'ensemble du territoire, y compris la Crimée, bien sûr.
Alors ça a aussi énormément évolué. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même avant, après Boutcha, avant, après la désoccupation de tout un certain nombre de territoires, Kharkiv, Kherson, etc., où on a vu 6 chambres de torture par ville, où on a vu toutes ces exactions. Et là, de plus en plus, et ça c'est terrible, on voit monter une haine contre les Russes, c'est-à-dire un point de non-retour. C'est-à-dire une petite fille qui naît aujourd'hui risque de s'appeler Javelina, donc le nom... en référence
à l'arme américaine.
Alors nous allons maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Ce soir, ce temps fort, eh bien, nous restons à Paris. Nous allons même à deux pas d'ici, à l'Élysée, où Benjamin Netanyahou a dîné. C'était jeudi soir avec le président Emmanuel Macron. Le Premier ministre israélien est venu solliciter un renforcement des sanctions internationales contre l'Iran pour empêcher les Mollahs de se doter de l'armée nucléaire. Emmanuel Macron, lui, s'est inquiété du regain des violences israélo-palestiniennes. Un raid de l'armée israélienne a fait 10 morts dans le camp de Jenin, des terroristes du djihad islamique, mais aussi des civils. Le lendemain, un attentat palestinien a tué 7 civils à Jérusalem-Est. Aïcha Goulsert, comment faire cesser cette spirale des violences qui a repris entre Israël et les Palestiniens?
Ça fait des décennies qu'ils n'arrivent pas à arrêter. J'aurais bien voulu pouvoir vous dire comment. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment la direction dans laquelle Israël est en train d'aller aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un gouvernement d'extrême droite à ce point. Netanyahou, on sait que c'est un machiavélien. C'est-à-dire que ce qu'il veut là, c'est montrer à son peuple, en un sens, en disant que j'ai encore une place importante sur la scène internationale. Regardez, je suis accommodé sur un tapis rouge. Et il veut aussi montrer qu'il apaise les Occidentaux en disant on peut continuer à faire ce qu'on fait en Cisjordanie, en un sens, parce qu'on continue à être dans les discussions. Moi, ce qui m'étonne, c'est que là, récemment, quand il a dit que je suis prêt non seulement à peut-être aider l'Ukraine, puisqu'on en parlait, mais aussi peut-être de servir comme médiateur, je me dis, il y a un homme qui est quand même au pouvoir pour effacer un peuple. Je parle des Palestiniens.
Mais il n'est pas du tout isolé, isolé diplomatiquement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les réformes de la justice, malgré la coalition d'extrême droite.
Absolument.
Il n'est pas du tout de boycott.
Mais attention, parce qu'il tombe, le pays tombe avec. Il y a des manifestations qui continuent aujourd'hui en Israël, essayent de retenir le pays un peu à la surface.
Et en même temps, Stéphane De Vries, quand on regarde la coalition au pouvoir en Israël, c'est le moins radical, si j'ose dire, de ce qu'il y a aujourd'hui au gouvernement. C'est-à-dire, c'est ce que disent d'ailleurs les chanceliers occidentaux.
Ouais, tout à fait.
C'est que c'est celui aussi qui a le plus d'expérience et qui est peut-être le moins dangereux, tout étant relatif, que l'extrême droite la plus radicale qui a aujourd'hui intégré le pouvoir.
Tout à fait. C'est peut-être aussi pour ça que l'Occident continue à parler avec lui, parce qu'il est considéré comme le moins fou, peut-être. Mais c'est quand même inquiétant que la démocratie israélienne, elle souffre beaucoup de ce qui se passe. Je crois qu'il y a eu 5 élections en 3 ans. C'est un système extrêmement instable, avec des grands schismes dans la population, beaucoup de démonstrations, manifestations. L'Israël aussi souffre de cette politique.
Alors Florence Omna, aussi on a vu Benjamin Netanyahou annoncer qu'il y aurait une possibilité, une réflexion autour de la livraison d'armes en Ukraine de la part d'Israël. Ça a été un allié, la Russie aussi, à un moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un allié sur lequel on se demande quelle est sa fiabilité.
Je crois que c'est la réponse, c'est l'Iran. Hein.
Oui, c'est donc, ça, qui a provoqué
des drones.
Oui, des drones, voilà. Des drones. Donc l'Iran livrant des drones à la Russie, l'Iran étant l'ennemi d'Israël, ça a fait la différence. Et il y a eu ce fameux bombardement d'une usine dont personne ne sait exactement. Alors, il y a des. Est-ce que c'est vraiment une usine de drones ou pas? Quelle était la cible? Quel était le lanceur de bombes? On ne le sait pas non plus. Mais enfin, c'est assez cousu de fil blanc. Je pense que la clé de cette histoire, c'est ça. C'est tout simplement essayer de se mettre l'Europe dans la poche avec l'Iran contre l'Iran.
C'est ça, contre l'Iran.
Ouais.
Alors on va passer à une autre actualité de la semaine. Nadia, qui nous ramène en France, justement, c'est le projet de réforme de retraite du gouvernement qui, selon les sondages, et aussi d'ailleurs les manifestations qui ont eu lieu à l'initiative des syndicats la semaine dernière, suscite un rejet assez important dans l'opinion.
Oui, un rejet massif, puisque sondage après sondage, donc, de plus en plus de Français se disent opposés à ce projet de réforme. Le soutien aux grèves et aux manifestations ne faiblit pas non plus. Une mobilisation qui n'en finit pas d'étonner nos voisins européens. On va en parler avec Jean-Mathieu, où je rappelle que l'âge moyen de départ à la retraite est de 65 ans. Stéphane De Vries, qu'est-ce que ça dit de nous, Français, et de la place qu'on veut bien accorder au travail, à la fois individuellement et collectivement? Et je sais que vous aimez bien donner votre avis sur ça.
Vaste sujet.
Lâchez-vous.
Je prends ma retraite.
Allez-y,
parlez librement.
En fait, c'est un sujet. Moi, je suis arrivé en France en 1998, et à ce moment-là, le sujet jouait déjà. Chaque président, depuis, a eu sa réforme de la retraite, qui, en fait, n'est jamais allée assez loin, parce qu'aujourd'hui, tous les pays en Europe vont beaucoup plus loin que la France. La réalité est qu'on vieillisse, la population vieillit en meilleure santé.
Mais tous les pays n'ont pas la même démographie, n'ont pas les mêmes systèmes. Est-ce que c'est effectivement...
C'est comparable quand même en Europe.
De comparer,
c'est quoi la situation aux Pays-Bas, justement, dans votre pays?
Il y a eu aussi une réforme de la retraite qui a été votée juste avant Noël, qui a eu lieu après 10 ans de discussions entre les employeurs, les employés, les politiques, etc. Donc c'est porté par toute la population. L'âge de la retraite augmente. Mais la retraite aux Pays-Bas, elle presque la plus élevée au monde. Donc
l'âge légal est à quel âge? C'est fixé à quel âge aux Pays-Bas?
C'est 67 ans, 66 ans et 7 mois, et l'année prochaine 67 ans.
Avec
et
une grosse part de capitalisation dans le système.
Tout à fait, tout à fait, qui fait que les gens touchent souvent beaucoup plus pendant leur retraite que pendant leur vie active.
Et cette réforme a donné lieu à de gigantesques manifestations et beaucoup...
Non, au contraire. En fait, elle est portée par toute la population, soutenue par toute la population, parce qu'il y a, eu 10 ans de débats, donc de négociations. 10 ans, c'est assez long. C'est un dialogue social, c'est un mot qui est inconnu en France. Mais c'est exactement aussi ce qui ne va pas dans cette réforme. En fait, à chaque fois, ce qui me frappe, c'est qu'on ne peut... On ne peut pas avoir un débat serein sur la retraite, la réforme de la retraite. À chaque fois, ça devient très violent. Bien sûr, c'est imposé du haut en bas par le président, le gouvernement. Très peu de concertation. Et puis, finalement, ce que j'ai aussi, c'est la perception des Français de qu'est-ce que c'est le travail. Les Français, bon, je généralise, c'est difficile, mais pour un Français, travailler, c'est presque une punition. Et la retraite, c'est la délivrance. Donc...
Je pense qu'on sait où Stéphane De Vries va prendre sa retraite. Ce sera aux Pays-Bas.
Mais dans longtemps.
Je vous laisse faire le calcul.
Sur le rapport au travail, peut-être, à Chigoulsert.
Oui, et ça, je vous dirais sur perspective américaine. Nous, on regarde à la France dans un état de choc. Parce qu'aux États-Unis, nous, on voit le travail, pour continuer la généralisation, comme un droit. C'est-à-dire que ce que, par exemple, comment je suis arrivée il y a quelques années en France, j'étais choquée de ces débats qui continuaient sur est-ce qu'on devrait ouvrir les magasins les dimanches ou pas? Est-ce que ça ne fait pas
pourquoi,
beaucoup de travail
pourquoi
de divertissement? Parce que ça fait partie, nous n'avons pas le même rapport aux États-Unis, au travail, au,
une question de liberté individuelle, vous dire,
voilà.
C'est ça.
Et c'est pas aussi une question de droite et gauche. J'ai l'impression que en France, c'est une question de voilà, quand Madame Rousseau parle de la paresse, du droit à la, droit à la paresse. Et voilà, ce ne sont pas des sujets. Après, je dois dire que les États-Unis, comme on le sait, est un pays où l'État-providence n'existe pas, où ce n'est pas à 62, 65 ou 67 ans où on va à la retraite, mais généralement, même les gens qui prennent le retraité sont obligés de travailler. Ouais. Mais c'est un autre rapport au travail et c'est différent.
Alors en tout cas, l'Europe scrute attentivement ce qui se passe aujourd'hui en France, effectivement, autour de cette réforme des retraites. Il faut bien le dire, Jean-Mathieu, il semblerait que les journaux européens soient un tantinet moqueur.
Et oui, il y a des choses qui ne changent pas. Hein. En France, eh bien, on perd les guerres et on fait la grève. Voilà une pique lancée par un présentateur de la BBC et relevée par le journal Le Parisien aujourd'hui en France, qui reflète une certaine opinion de la presse internationale, même au-delà de l'Europe. Ainsi, la correspondante à Paris du magazine américain dit Atlantic n'a pas hésité à plonger dans les manifestations vin chaud et fumigène au programme pour expliquer à ses lecteurs pourquoi 1 million de personnes ont décidé de battre le pavé. Un article titré assez sobrement eh bien, pourquoi les Français veulent cesser de travailler. Voilà, tout simplement. Autre tentative de compréhension de ces protestations avec le New Yorker. Donc, la publication s'essaye là à l'analyse littéraire de la colère en écrivant que la France serait, je cite, en déficit poétique. Et oui, tout simplement. Le journal Le Doute Atlantique évoque des syndicats héritiers du Front Populaire qui verraient comme un déshonneur d'ouvrir des négociations sur le travail et descendraient dans la rue, comme on écrit un alexandrin juste pour la beauté du geste. Voilà, tout simplement. Alors, du côté de la presse européenne, si de nombreux journalistes allemands s'étonnent des cortèges fournis lors des 2 journées de mobilisation sociale, Der Spiegel prend le temps d'expliquer que les Français ne sont pas feignants, mais avant tout moins libre et moins épanoui. Du côté italien et espagnol, par contre, c'est la mobilisation de la jeunesse qui étonne. Voilà, pas trop travailleurs et affamés de révolution, le cliché du salarié français à la vie dure à l'étranger. Pourtant, quand on regarde ce calendrier publié par The Guardian, un journal britannique, sur les prochaines grèves en Grande-Bretagne, on se dit qu'on va avoir une sacrée concurrence quand même. Alors c'est vrai, Stéphane Ruiz, par exemple, je vous demande à vous, pourquoi finalement tant de clichés sur les Français?
Bah, souvent, les clichés sont vrais, mais...
C'est vrai, on peut exagérer quand même.
On peut exagérer, mais ça fait aussi ça fait le charme.
On retrouve, à chaque conflit social, on retrouve ce genre de
d'articles. Oui, mais en Europe, en fait, ouais, vous citez beaucoup de sources anglo-saxonnes, mais en Europe, en général, donc dans l'Union européenne, il y a une vraie interrogation sur la solidarité des Français, parce que partout en Europe, l'âge de la retraite est déjà élevé, va être encore plus davantage augmenté. On est dans le même bateau en l'Union européenne. Donc finalement, les retraites tôt en France seront aussi payées par les Néerlandais, par les Polonais, etc. Et donc on s'inquiète beaucoup de l'absence de la solidarité européenne.
Et en même temps, Florence Aubin, on parle du rapport au travail d'une société comme la France. Est-ce que ça a vraiment un sens au vu de la diversité des situations? Quel rapport entre votre travail, notre travail et celui par exemple des femmes de ménage du quai de Ouistreham que vous racontiez dans ce livre, et d'ailleurs métier que vous avez exercé pour ce livre, ou des fameux gilets jaunes que vous racontez aussi et qu'on voit peut-être un peu réapparaître dans le mouvement, les métiers ce qu'on appelait les métiers de seconde ligne pendant la crise Covid.
Écoutez, au monde où je travaille, donc le quotidien où je travaille, il faut partir du monde à 70 ans. Donc on peut partir bien sûr avant, mais la limite est 70 ans. Et les gens aimeraient que ce soit 75.
Oui.
Quand j'ai fait cette expérience au quai de Ouistreham, donc où je me suis inscrite au chômage, cachant le fait que j'étais journaliste, et en disant « je suis tout simplement une femme, plus de 50 ans, sans diplôme, à quoi je peux prétendre ?» Et je suis immédiatement rentrée dans les gens à problème plus, en me disant « vous êtes déjà très très âgée. Et pour vous, il n'y a plus rien à votre âge. » Donc la perception de quel âge on a, à quel âge on peut travailler, à quel âge on vaut quelque chose, elle est aussi très différente pour l'employeur. Et donc, il y a quand même, c'est quand même assez complexe. Et je comprends que toutes mes collègues femmes de ménage, la plupart ont des scolioses. La pénibilité, elle est une des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Enfin, et tout ça est à prendre en compte. Je pense qu'un âge global est compliqué à...
Il y a aussi une particularité française, c'est qu'il y a très peu de gens sur le marché du travail. Donc les gens qui sont ouais. plus âgés participent beaucoup moins au travail.
Et les seniors travaillent
moins dans l'emploi.
Oui, ouais, donc les... les, les